Nous étions arrêtés la dernière fois à l'étude de l'offertoire et du canon de la messe jusqu'à la consécration inclue. Dans le nouveau rite, on parle maintenant de présentation des dons et de prière eucharistique. Il y a quatre formules, enfin vous vous rappelez un peu tout cela. Les documents utilisés, pour très rapidement, donc le Lebrun, un ouvrage publié en 1716 sur la messe traditionnelle, ainsi que l'ouvrage de l'abbé Joly aux éditions Clovis. Et pour le nouveau rite, j'utilise à la fois un commentaire de la nouvelle messe publié au Cerf aux éditions de la Maison Dieu, édition du Centre de Pastoral Liturgique, donc le fer de lance moderniste de la réforme liturgique, ainsi que la présentation générale du nouveau missel, qui est l'équivalent des rubriques, donc le texte qui explique comment célébrer la nouvelle messe. Résumons rapidement les changements que nous avions vus dans les parties précédentes de la messe. Tout d'abord, une atténuation très forte de la notion de péché, qui apparaissait dans la suppression des prières au bas de l'autel, quasiment totale. On voyait aussi le caractère communautaire de la célébration. Ça n'est plus le prêtre qui célèbre, mais l'auteur de la célébration, c'est l'assemblée, l'ensemble des fidèles. Et les rites de l'entrée, dans le nouveau rite, ont pour fin de susciter l'assemblée, de transformer les individus en un seul groupe qui puisse, eh bien, étant le Christ, par leur union entre eux, célébrer l'Eucharistie. Les lectures sont apparues aussi comme un acte éminemment communautaire, elles sont partagées entre le prêtre et l'assemblée. Et le célébrant est dit être uniquement le président de l'assemblée. Pour ce qui concerne l'offertoire, dans l'ancien rite, le prêtre offrait déjà le sacrifice du Christ. Il offrait l'hostie immaculée ou le calice du salut. C'était par avance déjà offrir le sacrifice du Christ qui allait se renouveler à la consécration. Et à ce sacrifice du Christ s'ajoutait celui des fidèles dans la prière en esprit d'humilité et avec une âme contrite. Par laquelle, eh bien, les fidèles s'unissaient à l'unique sacrifice du Christ. Dans le nouveau rite, il s'agit d'une présentation des dons. On présente le pain et le vin, fruit de la terre, fruit de la vigne et du travail des hommes. On le présente à Dieu, et cette offrande est celle de l'assemblée. Il y a même prévu un rite de procession pour amener cela. Ce n'est donc plus l'offrande du Christ, par avance, mais l'offrande de l'assemblée. Quant au canon de la messe, lui qui était la partie centrale, inchangée depuis très longtemps, il a subi des changements radicaux. Tout d'abord, maintenant, il n'y a plus un seul canon, mais il y a quatre prières eucharistiques reconnues, donc dans le rite tel qu'a publié Paul VI. Il y en a une dizaine en langue française et une infinité selon l'invention des différentes communautés qui célèbrent l'Eucharistie. Donc là, il y a une grande révolution, surtout que le canon de la messe était resté inchangé dans sa partie centrale depuis le IVe siècle. Et depuis le VIIe siècle, on avait connu deux changements, un apporté par le pape Saint Grégoire le Grand pour le Inquisitur et l'ajout de Saint Joseph au Communicantes par le pape Jean XXIII. Donc, vous voyez, c'était vraiment une prière sacrée auquel on n'osait pas toucher. Dans la forme aussi, on a vu beaucoup de différences. Traditionnellement, le canon était dit à voix basse par le prêtre, sans aucun dialogue. Désormais, il est dit entièrement à voix haute. Et les paroles de la consécration sont dites à voix haute sur le mode d'un récit, sans aucune distinction entre ce qui est les paroles sacramentelles, ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang, et le reste du récit, le soir de sa passion, le Christ prit du pain, le bénit, le rompit, etc. Donc on est passé d'une manière, dans le ton et même dans la typographie des livres liturgiques, les paroles de consécration étaient dites sur un ton impératif. Maintenant, tout est dit sous le mode du récit. Se confirme d'ailleurs dans la présentation générale du nouveau missel qui parle de cette partie comme du récit de l'institution de l'Eucharistie. Dans la version corrigée, maintenant on a le récit ou consécration. Donc, puisqu'il y a eu deux versions de la présentation générale, une en 69, qui était beaucoup plus scandaleuse, qui a été légèrement retouchée en 70 pour un léger toilettage, mais qui n'a pas changé de rite lui-même. Enfin, il y a ces génuflexions aussi au moment de la consécration, qui laissent planer un doute. Est-ce que le Christ, il y a la présence réelle par les paroles de la consécration ou par la foi des fidèles? En effet, traditionnellement, le prêtre prononce les paroles de la consécration, fait la génuflexion et élève l'hostie. Maintenant, le prêtre fait le récit de l'institution avec les paroles de la consécration, élève l'hostie et fait la génuflexion. Qu'est-ce qui rend le Christ présent? Il y a là maintenant un doute. Doute qui est renforcé par les acclamations que l'on dit immédiatement après la consécration, car dans tout on dit « Viens Seigneur Jésus ». Il vient d'être là présent. Par la parole de la consécration, on dit « Nous attendons ta venue dans la gloire ». On ne sait pas trop ce que ça vient faire ici. Et ça crée encore ce doute. En outre, dans les prières de les différentes prières eucharistiques, en dehors de la première qui est la reprise du canon traditionnel, du canon romain, moins les signes de croix, dans toutes les autres, eh bien, on a vu que toutes les prières avant la consécration ont quasiment disparu. Alors qu'elles indiquaient bien les intentions pour lesquelles le sacrifice était offert pour l'Église et pour les membres. Donc là encore, l'aspect sacrificiel de la messe était mis en valeur. Eh bien, voyons maintenant le commentaire des prières qui suivent la consécration. Ça commence par la prière, donc « Unde et Memores », c'est en bas de la page 7. Le prêtre, donc, étend les mains, puis les joint, avant de faire trois signes de croix sur le corps et le sang du Christ, et une fois sur le corps et le sang. Cette parole, si vous vous rappelez, peut se mettre en parallèle avec la prière d'avant la consécration, « Quam oblationem », que l'on avait donc juste avant la consécration. Cette offrande déniée, vous notre Dieu la bénir, l'agréer et approuver pleinement. On a exactement le même signe de croix. Donc voilà cette construction, je dirais, très hiérarchique du canon de la messe, avec au centre la consécration, dit sur le mode d'un récit, avec les paroles de la consécration dites sur un mode de commandement, et entouré de prières qui montent et qui se répondent l'une à l'autre, à la fois donc par les signes de croix. Donc c'est assez admirable cette consécration. C'est juste la prière qui précède donc la consécration du pain. Cette prière avant la consécration offrait la victime, le Christ qui allait être immolé, et maintenant on offre la victime immolée. Cela est parfaitement logique. Et ce qu'il y a entre les deux, ces deux prières de demande, qui viennent du prêtre, auxquels sont unis les fidèles, eh bien c'est l'œuvre de Jésus-Christ lui-même, que nous offrons avec l'Église entière. Et donc jusqu'à cette prière-là, le rite est inchangé depuis le IVe siècle. Le prêtre évoque ici les réalités qui viennent de se réaliser sacramentellement par la double consécration. Tout d'abord la passion du Christ, qui est donc proprement ce qui se réalise à la messe. C'est un renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. La résurrection aussi, qui est rappelée par la consécration, on le verra notamment au sein de la communion. Et enfin, le rite de l'ascension. Et on retrouve là aussi une référence au Suscipe Sancta Trinitas, recevez Trinité Sainte, qui marquait la fin de l'offertoire. Et le prêtre prie pour lui, pour les ministres et pour toute l'Église. Et il offre à Dieu... Eh bien, à Dieu le Père, parmi les dons et les choses données, les présents et les dons, donc on voit, c'est d'abord Dieu qui nous donne une chose, et cette chose qu'il nous a donnée, le sacrifice de son Fils, nous lui rendons. Ce don, c'est l'hostie pure, le Christ lui-même, l'hostie sainte, l'hostie immaculée. Pure, car elle est sans aucune tache du péché, sainte, car cette victime, le Christ, est unie substantiellement à la divinité et sans tâche, parce que le Christ n'a pas de péché et ne pouvait pas pécher. On demande ensuite le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Cela indique, comme on le verra dans les rites de communion, l'effet du corps et du sang du Christ reçu en communion. Cela est pour notre salut. Et on voit déjà les grâces méritées par la croix qui redescendent sur les fidèles. Suit la prière supraque. Sur ces offrandes, daignez jeter un regard bien favorable et bienveillant. Acceptez-les comme vous avez bien voulu accepter les présents de votre serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, le père de notre race, et celui de Melchisédek, votre souverain prêtre, offrande sainte, offrande sacrifice sans tâche. Cette prière existe en substance depuis le IVe siècle. Il y a eu quelques modifications dans la forme, mais l'idée est là. On demande que Dieu agrée, accepte l'offrande. L'offrande du Christ en lui-même, de Jésus-Christ, est agréable à Dieu, mais nous, les pécheurs, nous nous offrons avec le Christ. Et nous demandons que malgré notre indignité, Dieu accepte eh bien, cette oblation que nous lui faisons et qui est présentée au Père par nos mains. Et on fait référence à trois sacrifices de l'Ancien Testament, celui d'Abel, d'Abraham et de Melchisédek. Vous vous rappelez Abel qui offrait à Dieu des agneaux de son troupeau, et son sacrifice était agréé de Dieu, alors que celui de son frère Caïn ne l'était pas. Et Abel est l'image du Christ, l'agneau pascal, le premier-né d'entre les hommes, en effet. Abel était le premier-né d'Adam et Ève, qui était juste et qui a été mis à mort par méchanceté, par son frère. Donc déjà, image du sacrifice du Christ. Le sacrifice d'Abraham, c'est celui qu'Abraham a dû faire à la demande de Dieu sur le mont Moria. Vous vous rappelez que Dieu a demandé à Isaac de prendre son fils et de lui offrir en holocauste sur une montagne. Et donc Isaac se charge du bois du sacrifice, comme le Christ s'est chargé du bois de la croix, monte cette montagne, le mont Moria, donc à Jérusalem, et là, il devait être immolé, mais un ange arrête au dernier moment le bras d'Abraham, et c'est un bélier qui est immolé à sa place. Isaac devait être immolé par la volonté du Père, comme le Christ, comme la volonté de son Père. Et Isaac, après cela, sera le Père d'un peuple nombreux, de tout le peuple élu. Donc c'est l'image du Christ qui est le premier-né, qui par son sacrifice eh bien, nous rachète tous et qui est en qui nous avons tous la vie, comme tout le peuple élu a eu la vie d'Isaac. Le sacrifice de Melchisédek, enfin, qui était roi de justice et de paix, c'est ou roi de Salem, l'ancêtre de la ville de Jérusalem, c'est lui qui a offert, personnage mystérieux, la Bible nous dit assez peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il était roi, un roi voisin de là où était Abraham. Et il y avait une razzia de peuplades lointaines qui avait pillé 3 ou 4 royaumes. Et Abraham rassemble ses hommes, poursuit ceux qui avaient commis tous ces vols, et ramène ça aux différents rois, notamment à Melchisédek, qui offre à ce moment-là un sacrifice à Dieu, en l'honneur pour Abraham, et c'est un sacrifice de pain et de vin. Et donc c'est déjà un signe du sacrifice de la messe. Et notons-le d'ailleurs, il n'y a pas, quand on dit offrande sainte, sacrifice sans tâche, de signe de croix, parce qu'on désigne là le sacrifice de Melchisédek, non le sacrifice du Christ. Après donc ces prières, cette prière du supraque, il y a cette demande du supplices. Nous vous supplions, Dieu Tout-Puissant, faites porter ces offrandes par les mains de votre saint ange là-haut sur votre autel en présence de votre divine majesté. Et quand nous recevrons en communion ici à l'autel le corps et le sang infiniment saint de votre Fils, puissions-nous tous être comblés des grâces et des bénédictions du ciel par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Eh bien, dans la première partie du canon, avant la consécration, on demandait à Dieu les grâces pour l'Église. Eh bien, ici, on recueille les fruits du sacrifice de la croix. D'abord, pour ceux qui vont s'unir au sacrifice par la communion. Donc on parle ici, en communiant ici à l'autel, au corps et au sang. On prie aussi déjà donc pour les âmes du purgatoire, après, dans l'ordre, dans les prières suivantes, et enfin pour tous les hommes. Cette prière du nous en supplions Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le prêtre l'a dit incliné, les mains jointes sur l'autel. À la fin, il embrasse l'autel, puis fait le signe de croix sur le pain et sur le vin, sur le corps du Christ et sur le sang du Christ. Et enfin, il se signe lui-même. Cette prière implore de Dieu les fruits du sacrifice sur tous ceux qui vont communier. Elle est adressée à Dieu le Père Tout-Puissant, et on demande que ce sacrifice soit porté par les mains de votre saint ange. Ce saint ange dont il est question ici, c'est de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui se tient devant la majesté divine, car il est Dieu lui-même. C'est le Christ qui, éternellement, offre à Dieu son Père le sacrifice de la croix. Et d'ailleurs, on le voit, à la fin, on dit par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ce qui montre bien qu'il s'agit de la même personne. Et donc, après avoir demandé à Dieu d'accepter ce sacrifice, eh bien, on demande ses grâces sur nous qui allons communier. Après avoir demandé les grâces pour ceux qui participent à la messe, on prie pour ceux qui ne peuvent pas y participer. Il s'agit donc des défunts. C'est le mémento des morts. Le prêtre écarte les mains, un moment reste en silence, puis les rapproche. À l'origine, le prêtre nommait à ce moment-là les défunts pour lesquels la messe était demandée, mais ça a été supprimé, d'abord pour les vivants, parce que certains en tiraient gloire de se faire nommer régulièrement à la messe, comme la messe dite pour certains vivants, et puis ensuite, eh bien là aussi, donc le prêtre pense simplement aux défunts pour lesquels il prie. Et on prie pour ceux qui sont marqués du sceau de la foi, c'est-à-dire qui ont reçu le baptême d'eau, ou le baptême de désir, ou le baptême de sang, et qui dorment du sommeil de la paix. Cette expression, eh bien, on la trouve chez saint Augustin, qui dit « mourir dans la paix ». Et cela signifie « mourir avec les signes de communion ecclésiastique en appartenant à l'Église ». Et cela nous rappelle que pour aller au ciel, il faut appartenir à l'Église. Hors de l'Église, il n'y a point de salut. Et même les infidèles, ceux qui ne sont pas baptisés, mais eh bien, s'ils sont sauvés, c'est qu'ils ont reçu de Dieu ce qu'on appelle le baptême de désir. Et ce sommeil de la paix n'est ni la mort éternelle de l'enfer, ni la résurrection du ciel. C'est l'état intermédiaire du purgatoire, où les âmes expient les peines des péchés, de leurs péchés. Et ils reposent dans le Christ par la grâce. Et on demande pour eux donc le lieu de rafraîchissement, une allusion donc au feu du purgatoire, et enfin la lumière et la paix, c'est-à-dire le ciel. C'est au IVe siècle que l'Église de Jérusalem a transféré cette prière pour les défunts, du memento des vivants, c'est-à-dire de l'offertoire, à cet endroit, et cet usage ensuite s'est étendu à toute l'Église, et c'est assez naturel parce que les âmes du purgatoire ne peuvent plus mériter pour elles-mêmes, ni même offrir la messe, elles peuvent simplement recueillir les fruits de la messe. Après cela, il y a la prière du Nobis Quoque Peccatoribus. À nous aussi pécheurs, vos serviteurs, qui mettons notre confiance dans votre infinie miséricorde, etc. Le prêtre, là, élève un peu la voix pour dire « À nous aussi pécheurs » et il se frappe la poitrine. Et on trouve cette prière dès les environs de l'an 700. Après avoir prié pour les âmes du purgatoire, eh bien, le prêtre prie pour lui-même et pour tous les fidèles vivants, afin que nous recevions les fruits de la messe. Et le ciel, ici, est désigné comme la communauté des saints, avec les apôtres, les martyrs, la très sainte Vierge Marie. Et certains saints qui sont spécialement honorés à Rome. Et pour cela, nous comptons non pas sur nos propres mérites, sur nos propres actions, mais sur la grâce de Dieu. Voilà donc le canon de la messe, qui est ensuite conclu par la prière par Perquem et Omnia, donc par lui vous ne cessez de créer tous ces biens, Vous les sanctifiez, vous leur donnez la vie, vous les bénissez pour nous en faire don. Alors le prêtre, en pressant cette prière, fait trois signes de croix sur le calice et l'hostie, génuflecte, découvre le calice et fait avec l'hostie trois signes de croix sur le calice. Puis il fait deux signes de croix avec l'hostie du bord du calice sur le corporal et il recouvre le calice et conclut par les paroles « Per omnia, secula seculorum » et les fidèles répondent « Amen ». Et cette prière récapitule tout en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a deux mouvements dans cette prière. Tout d'abord, il y a Dieu qui nous donne ses biens par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous qui rendons gloire à Dieu pour tous ses biens et grâce à cela. Dieu tout d'abord qui crée tous ses biens par notre Seigneur Jésus-Christ, toutes choses, le pain, le vin, devenu le corps du Christ, et tout ce qui existe, a été créé par Dieu, et Dieu les a créés en Jésus-Christ par son Fils. Et remarquons-le ici, quand on dit créer, il n'y a pas de signe de croix, parce que l'œuvre de la création appartient à toute la Trinité, et aussi au Verbe de Dieu, seconde personne de la Sainte Trinité, qui en tant que Verbe, que seconde personne de la Sainte Trinité, n'est pas morte sur la croix. Ensuite, Dieu les sanctifie par Jésus-Christ. Les sanctifier, c'est-à-dire les séparer de l'usage profane lors de l'offertoire. Et ça, c'est l'œuvre du Verbe incarné qui a été crucifié, d'où un signe de croix. Dieu les vivifie ensuite par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ et qu'ils sont la nourriture de notre vie. Encore un signe de croix parce que c'est l'œuvre du Verbe incarné. Et Dieu les bénit et nous les donne par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, Dieu répand ses bénédictions sur le corps et le sang et nous donne le corps et le sang du Christ. Et encore un signe de croix parce que c'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait homme. Donc Dieu qui nous fait ses dons et ses dons nous lui rendons. Ce sont ces mots, par lui, avec lui et en lui, vous sont donnés Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire dans tous les siècles des siècles. Donc par lui, car Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Avec lui, car Jésus-Christ est égal à Dieu le Père et reçoit avec lui nos louanges et nos adorations comme Verbe de Dieu. Et en lui, car Jésus-Christ est consubstantiel au Père et en honorant Jésus-Christ, on honore le Père et le Saint-Esprit. Et pour ces trois choses, on fait un signe de croix avec l'hostie sur le calice pour signifier que cela se réalise en notre Seigneur Jésus-Christ, donc à la fois donc, avec le corps et le sang, à l'intérieur donc, de ces deux choses. Et quant à la conclusion, sont donnés Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, eh bien cela se réalise en dehors de Jésus-Christ pour l'honneur de toute la Trinité, et cela se fait bien, le signe de croix se fait avec l'hostie en dehors du calice. On voit donc l'importance de ces rites, l'attention que donne l'Église à tous ces détails. Et tous les fidèles concluent par « Amen » pour témoigner leur acceptation et leur participation à cette offrande qui a été réalisée tout au long de l'offertoire et du canon. On peut aussi noter le parallèle ici avec la conclusion de la préface où, par qui louent les anges, etc. On disait déjà que c'était par Jésus-Christ que était rendu l'honneur et la gloire à Dieu. Alors, que dire sur le canon? On peut admirer à la fois sa simplicité, sa profondeur, sa précision théologique. On voit chaque signe de croix à une place et à un sens déterminé, ainsi que cette organisation pyramidale. Il y a cette montée vers la consécration et ensuite cette redescente. On demande les grâces et ensuite on recueille ces grâces. Avant la consécration, on expose les intentions pour lesquelles le sacrifice est offert, l'Église et ses membres. Au début du rite de la consécration, toute l'Église, à travers le prêtre, présente l'offrande. Le sacrifice se réalise au cours du récit de la scène, où les paroles sacramentelles de la consécration sont détachées du récit. Et c'est là que se réalise l'immolation du Christ. Et la fin de la consécration, eh bien, est constitué par l'offrande des victimes immolées. Après la consécration, on demande les fruits de grâce sur les communiants, les défunts et tous les hommes. Et enfin, cette conclusion qui récapitule tout, en Jésus-Christ. Voyons maintenant le nouveau rite. C'est donc il y a 4 prières eucharistiques. La prière eucharistique numéro 1, qui dans le texte latin n'a pas de changement, à part quelques ajouts dans la première partie, avec le canon romain, donc celui que nous célébrons nous ici à la messe. Donc il y a assez peu de critiques à apporter, peut-être quelques détails de traduction. Notons simplement la disparition de tous les signes de croix, ou presque, ce qui affaiblit l'identité entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe. Voyons maintenant les prières 2, 3 et 4. On va voir ça de manière groupée pour aller plus rapidement. Il y a donc plusieurs parties. C'est exposé dans la présentation générale du nouveau missel au numéro 55. Où on distingue donc les différents éléments des prières eucharistiques. Il y a la consécration, donc je vous lis ce qui est écrit. Le récit de l'institution, par les paroles et les actions du Christ, est représenté la dernière scène, où le Christ lui-même institua le sacrement de sa passion et de sa résurrection, lorsqu'il donna à ses apôtres l'espèce du pain et du vin, son corps et son sang, à manger et à boire, et leur laissa l'ordre de perpétuer ce mystère. Vous voyez, donc, ici, on dit simplement le récit de l'institution. C'était tellement choquant, ça a été corrigé donc en 70, où on dit maintenant le récit de l'institution et la consécration. Mais ça dénote déjà l'esprit. Donc après cette consécration, nous avons vu l'autre fois, vient l'anamnèse. Un mot grec qui a été mis là sans doute pour faciliter la compréhension des fidèles. Et il est dit: en accomplissant l'ordre qu'elle a reçu du Christ, par l'intermédiaire des apôtres, l'Église fait mémoire du Christ lui-même, en célébrant principalement sa bienheureuse passion, sa glorieuse résurrection et son ascension dans le ciel. Traditionnellement, on présentait à Dieu le sacrifice du Christ, la victime parfaite, la victime sainte, sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice du salut. C'était un rappel que la messe était un sacrifice, le même sacrifice que celui de la croix. Et on affirmait aussi que le pain et le vin étaient désormais le Christ lui-même. Dans cette prière, ici, notons-le, on offre simplement le pain de vie et la coupe du salut. Et ces expressions sont assez peu précises. C'est la prière eucharistique numéro 2. Et pourquoi on offre cela ? Pour rendre grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. On le voit déjà, donc le sens en est fortement changé. Et on retrouve les mêmes éléments dans les autres prières. Dans la prière eucharistique 3, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Mais là encore, il y a une certaine ambiguïté. Et dans la prière eucharistique numéro 4, on parle là du « Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi. » Mais auparavant, on avait dit « Nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au jour des morts. » Donc, de quoi s'agit-il ? S'agit-il d'un mémorial ? On fait mémoire ensemble, on se souvient de la mort du Christ sur la croix il y a 2000 ans, ou est-ce que le Christ est actuellement, réellement immolé, sacramentellement sur l'autel, sous les apparences du pain et du vin ? Eh bien là, les choses ne sont pas très claires. Ça ne nie aucune vérité, mais ça manque de cette précision qu'on trouve dans le rite traditionnel. Après l'anamnèse, vient l'offrande. Au cœur de cette mémoire, l'Église, et surtout celle qui est actuellement rassemblée, offre au Père, dans le Saint-Esprit, la victime sans tâche. L'Église veut que les fidèles non seulement offrent cette victime sans tâche, mais encore qu'ils apprennent à souffrir eux-mêmes et soient consommés de jour en jour par la médiation du Christ, dans l'unité avec Dieu et entre eux, pour qu'à la fin, Dieu soit tout en tous. Traditionnellement, ici, on priait pour que Dieu agrée ce sacrifice comme il avait agréé le sacrifice d'Abel, d'Abraham et de Melchisédek. Ici, on parle, celui qui offre, c'est l'Église, surtout celle qui est rassemblée actuellement. Donc, c'est l'assemblée des fidèles qui offre. Et elle offre la victime sans tâche qui est constituée par l'unité avec Dieu et aussi l'unité entre les fidèles par la médiation du Christ. Il s'agit donc du sacrifice. De quoi s'agit-il ? Du sacrifice du Christ ou du sacrifice de toute l'Église ? Il y a une certaine ambiguïté qui sera renforcée, on le verra, dans les rites de communion où on insistera quasiment seulement sur l'union entre les fidèles entre eux. Donc c'est peut-être simplement l'offrande des fidèles de cette communauté qui s'unit et qui partage. Alors pour cette prière, dans la prière eucharistique 1, c'est pas de changement, c'est par rapport à la tradition. La 2, c'est vite fait, il n'existe pas, cette prière. Dans la prière eucharistique numéro 3, on parle le sacrifice de ton Église. Et daigne y reconnaître celui de ton Fils. Donc ce qu'on met en avant, c'est le sacrifice de l'Église, de la communauté assemblée, et on demande à Dieu de reconnaître dans le sacrifice de cette Église, de l'ensemble des fidèles, le sacrifice de son Fils. Et il est dit, nous serons un seul corps et un seul esprit par la communion au corps et au sang du Christ. Ça, c'est une notion qu'on retrouvera après. On ne parle pas du sacrifice du Christ renouvelé, mais du sacrifice de l'Église, notion qui nous paraît imprécise, mais qui se précisera par la suite. Quant à la prière numéro 4, on dit « Regarde, Seigneur, cette offrande que tu nous as donnée, que tu as donnée toi-même à ton Église. » Cette offrande, de quoi s'agit-il ? Ça n'est pas très précis. Eh bien, dans l'ancien rite, on parlait du sacrifice du Christ lui-même, renouvelé. Ici, on parle d'un sacrifice imprécis, célébration, unis de tous les chrétiens entre eux dans le Christ ou renouvellement du sacrifice de la croix. Et la troisième solution est, à la lecture des textes, la moins probable. Viennent les intercessions. On y exprime que l'Eucharistie est célébrée en union avec toute l'Église, celle du ciel comme celle de la terre, et que l'offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants et morts, qui ont été appelés à la rédemption et au salut, et qui lui ont été acquis par le corps et le sang du Christ. Donc, prière eucharistique 2, il n'y en a. Donc, c'est au niveau donc, du mémento des morts. Eh bien, donc, on prie pour l'Église et ses membres, ce qui se faisait auparavant au début du canon, notamment on nomme le pape et l'évêque. On prie pour les défunts, mais là il y a une différence. C'est qu'on prie désormais pour tous les hommes, et non plus seulement pour ceux qui appartiennent à l'Église, et qui pouvaient être sauvés, car il faut appartenir à l'Église pour être sauvé. Appartenance au sens large, puisqu'on peut y appartenir par le baptême de désir. Ici, eh bien, dans la prière numéro 2, on dit « Souviens-toi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, donc les fidèles, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. » Donc on prie, c'est vraiment très vague, tous ceux qui sont morts. Prière numéro 3, « Pour les hommes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture. » Prière numéro 4, « Et de tous les morts dont toi seul connais la foi. » Il semble donc que tous les hommes, sans distinction de religion ou de foi, peuvent être sauvés. Il y a là en germe la doctrine du salut universel que l'on trouve dans l'Église moderne, où à la messe des morts, on dit qu'on prie le défunt, parce qu'il est déjà sauvé. Enfin, dans le sermon, pas dans les textes, heureusement. Après cela vient la doxologie finale, après les intercessions, qui exprime la glorification de Dieu. Elle est ratifiée et conclue par l'acclamation du Père. Donc, prière eucharistique numéro 1, il n'y a rien à noter. Elle reste inchangée, avec la disparition des signes de croix. Dans les prières 2, 3 et 4, il y avait traditionnellement un double mouvement, c'est-à-dire Dieu qui crée, qui nous donnait ce sacrifice, et nous qui l'offrions à Dieu. Désormais, eh bien, il n'y a plus maintenant qu'une action de grâce. On voit, donc, on parle de prière eucharistique. Eucharistique veut dire action de grâce. Donc, c'est une prière d'action de grâce. Il n'y a plus, donc, tout cet aspect, donc, de création, de sanctification et de sacrifice. Tout cela a disparu de cette prière. Quelques mots pour conclure sur le canon selon le nouveau rite. Eh bien, l'aspect sacrificiel de la messe et de la consécration a été très fortement gommé. Il n'est pas nié, ça serait hérétique, mais il est passé sous silence. Et notamment par un certain nombre d'ambiguïtés, où on parle de sacrifice, de mémorial que fait l'Église. Et cette notion de la messe comme renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, eh bien, disparaît quasiment de cette messe. Voyons maintenant les rites de communion. C'est plus simple là parce qu'il n'y a donc plus que deux formules. Ce n'est pas comme pour les canons où il y a une infinité de formules. Selon l'ancien rite, eh bien, naturellement, après le sacrifice du Christ, il y a notre participation à ce sacrifice qui se réalise par la mendication de l'hostie. On s'unit ainsi à la victime. Et on voit déjà cela dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, certains sacrifices, comme les holocaustes, la victime était brûlée entièrement en l'honneur de Dieu. Pour d'autres sacrifices, les parties les plus précieuses de l'animal étaient brûlées en l'honneur de Dieu. Une partie était réservée au prêtre, qui devait manger de cette viande sacrifiée, et une partie était réservée aux fidèles qui avaient offert la victime. Et on vous verra dans la messe traditionnelle, on distingue très nettement la communion du prêtre et la communion des fidèles. Les rites de communion commencent par la récitation du pater, précédée d'une préface, d'une introduction. On trouve déjà des allusions à cette introduction chez saint Jérôme ou chez saint Cyprien, dès le IVe siècle. Et nous rappelle le caractère étonnant du Notre Père. Osez dire que Dieu est notre Père. On le dit tous les jours, mais on l'oublie. Et pour oser faire cela, il a fallu que Jésus-Christ nous le dise et nous l'ordonne. C'est dans saint Matthieu 6,9, quand vous prierez, vous direz désormais notre Père, etc. Et le Notre Père s'insère naturellement ici. Si on regarde Notre Père, eh bien Jésus-Christ ne semble pas être nommé. Car en fait, c'est toute la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. On parle au nom de Jésus-Christ comme fils de Dieu, et nous sommes devenus fils de Dieu par notre union au Christ. C'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, pour reprendre les termes de la confession du canon, que nous pouvons dire notre Père. Quant aux demandes du Pater, elles sont si bien accordées avec tout le reste de la messe que plusieurs auteurs ont même estimé que les apôtres, quand ils étaient pressés en temps de persécution, se contentaient pour célébrer la messe de la consécration et du pater. Il y a un ou deux auteurs qui disent cela. Mais cela montre bien l'importance du pater et sa parfaite adéquation à cette place-là de la messe. Voyons rapidement les sept demandes du pater. Que votre nom soit sanctifié. On ne demande pas que Dieu devienne saint, il l'est infiniment. Mais que Dieu soit dit saint, reconnu saint et honoré par les hommes. C'est ce qui vient de se réaliser par le sacrifice de Jésus-Christ qui sanctifie le nom de Dieu. Que votre règne vienne, c'est d'abord le règne dans les cœurs et ensuite le règne dans les sociétés. Et ce règne vient par la sanctification des fidèles qui nous vient de Jésus-Christ. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien, les saints ne souhaitent qu'une chose, que la volonté de Dieu se fasse à travers eux sur la terre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On demande la nourriture terrestre, mais surtout la nourriture céleste, l'Eucharistie. Et c'est par elle qu'on peut réaliser les trois autres demandes du Pater. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par la communion, nous nous unissons à Jésus-Christ, et unis à Jésus-Christ, nous nous unissons en lui à tous les hommes, d'où cette nécessité du pardon avant la communion. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. On demande à Dieu la grâce pour résister aux tentations, et cette grâce est reçue par la communion. Mais délivre-nous du mal. On demande que Dieu retire tous les obstacles qui peuvent nous éloigner, eh bien, de Dieu, nous empêcher de réaliser les autres demandes du Notre Père. Le mal, c'est ici tout ce qui peut nuire à notre salut. Si nous sommes délivrés du mal, nous nous sanctifierons, nous glorifierons le nom de Dieu, nous établirons son règne, nous ferons sa volonté. Les fidèles, donc, répondent ces mots seuls, mais délivre-nous du mal. Tout le reste a été dit par le prêtre. Et par cette conclusion, le peuple s'unit à la prière tout entière. Quant au prêtre, il termine par ces mots « Amen » en secret. Et cet « Amen » n'exprime pas un désir ou une adhésion du prêtre à ses demandes, mais est bien plus la réponse de Dieu lui-même, car toutes ces demandes ont été réalisées par le sacrifice de la messe, par la consécration et la communion. Vient la conclusion du pater, ce qu'on appelle aussi l'embolisme, « Délivrez-nous Seigneur », etc. C'est en fait un développement et une paraphrase de la dernière demande du pater, « Mais délivre-nous du mal ». Et c'est aussi pendant ce temps-là donc, que le prêtre va prendre l'hostie et la rompre. Donc le prêtre prend la patène, l'essuie avec le purificatoire, la tient debout, fait un signe de croix avec la patène, embrasse la patène et la glisse sous la grande hostie. On demande à Dieu d'être libéré des maux passés. Ces maux passés, ce sont les peines dues à nos péchés. Nos péchés sont comme des blessures ou des fractures. Et après, il reste toujours des traces, des faiblesses. Cela crée en nous des habitudes, ce qu'on appelle des vices. Et il devient plus difficile de résister aux tentations. Et on demande donc à Dieu qu'il nous libère de ces suites du péché. Les maux passés, ce sont encore la peine due au péché, donc ce qu'il faut eh bien, réparer pour nos péchés passés déjà pardonnés. Et donc la communion aussi réduit, comme c'est un acte de charité, réduira eh bien, les peines à faire en purgatoire pour nos péchés passés. Des maux présents, c'est pour le corps la maladie. Et pour l'esprit, on demande à Dieu de nous délivrer des tentations, de la tiédeur ou de la léthargie de l'âme. Quant aux maux futurs, on demande d'être délivré de tout ce qui pourrait nous nuire dans le domaine spirituel en vue du bonheur éternel. Et cette demande se fait par l'intercession des saints, de Notre-Dame médiatrice de toute grâce, de Saint-Pierre et Saint-Paul, colonne de l'Église, ce sont les apôtres des Juifs et des païens, de Saint-André, qui était vénéré à Rome comme frère de Saint-Pierre, et qui, comme Saint-Pierre, est mort en croix, mais sur une croix en forme de X, dite croix de Saint-André, pour cette raison. Et ainsi, on invoque aussi tous les saints. Et on demande à Dieu de nous donner la paix. Cette demande de la paix a sans doute été ajoutée à une période de persécution. Et cette paix est demandée pour pouvoir servir Dieu librement. Il faut la demander spécialement aujourd'hui, où dans le domaine spirituel, nous sommes confrontés à un monde qui nous agresse en permanence, où le mal est mis sous nos yeux, où le mal est dit bien, et cette société, c'est vrai, est cause de la chute de beaucoup d'âmes. À la fin de cette prière, le prêtre réalise le rite de la fraction de l'hostie. Avant le 8e siècle, on la faisait un peu plus tard, après le baiser de paix. Mais après, on l'a approché ici, et on l'a dit en prononçant la conclusion, de cette prière. Donc, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est ton Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Donc, le prêtre casse l'hostie en deux parties, repose la partie droite, prend un fragment de la partie gauche, repose l'autre partie de l'hostie, et conserve cela. Dans les paroles de la consécration, on avait dit, le prêtre avait imité en tout ou presque les gestes du Christ. Il avait dit notamment, prenant dans ses mains saintes et adorables, le pain, prenant du pain dans ses mains saintes et adorables, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Et le prêtre avait donc élevé les yeux au ciel, baissé les yeux, fait tous les gestes du Christ, sauf celui de la fraction du pain. Car la fraction du pain, eh bien, signifie en fait le fait de la manducation, de manger l'hostie. La fraction du pain désigne à proprement parler l'hostie. Et sur la croix, sacrifice de la croix qui se renouvelle à la consécration, eh bien, le Christ n'a pas été brisé. Aucun de ses os n'a été brisé, comme d'ailleurs celui de l'agneau pascal. Au Moyen Âge, une partie donc de l'hostie ainsi rompue était conservée sur l'autel pour les malades. Une autre était mise dans le calice et une autre servait à la communion du prêtre et des ministres. Et encore maintenant, le prêtre peut donner la communion aux fidèles avec une partie de la grande hostie, ce n'est pas interdit. Il faut noter qu'en rompant l'hostie, eh bien, on ne rompt pas le corps du Christ, on n'a pas deux moitiés du corps du Christ. Le Christ est pleinement présent dans les deux parcelles. Ce qui est rompu ici, ce n'est que l'accident du pain. En effet, le Christ est présent sous les apparences du pain selon un mode substantiel. Et donc, selon ce mode de substance, il est pleinement présent dans tous les fragments d'hostie, aussi petits soient-ils. Et pour nous aider à comprendre cela, le catéchisme du Concile de Trente l'explique ainsi. Quand on rompt un morceau de pain, on a des deux côtés du pain. Et bien de la même manière, quand on rompt les accidents du pain, on a de chaque côté les accidents du pain qui sont le support du corps du Christ, réellement. Voilà pourquoi le Christ est tout entier, sous toutes les parcelles. Donc une fois l'hostie rompue, le prêtre conserve un fragment de l'hostie entre ses doigts joints, puis il fait trois signes de croix sur le salut, sur le calice, en disant « La paix du Seigneur soit toujours avec vous » et laisse tomber la parcelle d'hostie dans le calice. Le prêtre et les fidèles se souhaitent ici mutuellement la paix. Et cette paix qu'on demande, c'est la paix telle que Dieu la donne. C'est-à-dire être en paix avec Dieu, la sainteté. Et si nous avons la sainteté en nous, nous serons aussi en paix avec les autres hommes. Le Christ est notre paix, et cette paix nous a été rendue par la croix qui a détruit le péché. D'où ces signes de croix faits en même temps que ce souhait de paix. Et pendant les 10 premiers siècles, c'est ici que le prêtre et les fidèles se donnaient le baiser de paix, qui a été ensuite repoussé plus tard et réservé donc au clergé lors des messes solennelles. Le prêtre laisse alors tomber la parcelle d'hostie dans le calice en récitant la prière ec commixio, que ce mélange sacramentel du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir nous serve pour la vie éternelle. Alors pourquoi mettre une partie de l'hostie consacrée dans le précieux sang? Cet usage est très antique et remonte au premier siècle de l'Église. Il signifiait l'unité de l'Église et l'unité du sacrifice de la messe, qui est en fait l'unique sacrifice de la croix. Partout où la messe est dite, eh bien, il n'y a qu'un sacrifice, celui qui a eu lieu sur la croix et qui est rendu présent, de manière non sanglante. Et il y avait l'usage, dans les premiers siècles de l'Église, de prendre un fragment d'hostie qui avait été consacré à la messe du pape ou à la messe de l'évêque, qui était apporté dans les églises périphériques, et le prêtre mêlait donc ce fragment d'hostie dans le calice, pour bien montrer qu'il y avait donc une unité entre toutes les messes dites, et aussi cette unité avec la hiérarchie de l'Église. Et quand les églises étaient trop éloignées des cathédrales, eh bien, on conservait une parcelle de la messe précédente. Un autre motif, c'est aussi que pendant longtemps, on a usé de pain fermenté, qui avec le temps devient sec. Et pour pouvoir consommer ces hosties plus anciennes, il fallait les mettre eh bien, dans le vin, dans les espèces du vin, pour qu'ils soient plus facilement consommables. On voit d'ailleurs chez les Grecs encore, quand ils portent la communion aux malades avec du pain fermenté, eh bien, ils le trempent dans du vin. Un troisième motif est symbolique. C'est que ce mélange signifie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort du Christ était apparue de manière sacramentelle par la séparation du corps et du sang, qui est un état de mort, état de mort sacramentelle. Eh bien, ici, on réunit le corps et le sang pour indiquer que le Christ est ressuscité. Tout cela est bien sûr dans l'ordre du signe, parce que le Christ est pleinement présent sous les apparences du pain et du vin. Il y a sous les apparences du pain le corps du Christ avec son sang, son âme et sa divinité. Sous l'apparence du vin, il y a d'abord le sang du Christ, auquel est uni aujourd'hui, car le Christ est ressuscité, son corps, son âme et sa divinité. Et ce mélange doit servir pour la vie éternelle. Après cela vient la prière de l'Agnus Dei, qui a été prescrite par le pape Sergius Ier au 7e siècle. Vers l'an 900, on a dit trois fois l'Agnus Dei avec la conclusion Miserere Nobis. Et à partir du 12e siècle, sans doute à un moment de trouble, on a transformé la troisième invocation en disant Donnez-nous la paix. Aux messes des morts où toutes les prières sont réservées pour le défunt, on dit Donnez-leur le repos deux fois, c'est-à-dire la remise des peines du purgatoire, et la troisième fois, on dit Donnez-leur le repos éternel, c'est-à-dire le bonheur du ciel. L'agneau est le symbole du Christ immolé. L'agneau est un symbole de douceur et d'innocence. Le Christ est la victime innocente, immolée pour tous les hommes. On y retrouve aussi l'image de l'agneau pascal. Quand le peuple élu a pu fuir d'Égypte, sous la direction de Moïse, Dieu avait ordonné de manger la veille un agneau, de ne pas lui briser les os, de le rôtir et de le manger donc debout, prêt au départ. Et avec le sang de cet agneau, il fallait faire une croix sur la porte de sa maison. Et l'ange exterminateur qui allait tuer tous les aînés, tant des hommes que des animaux, épargnait les habitants des maisons qui portaient ce signe de la croix. C'est l'image du Christ qui, par son sang et sa croix, eh bien, nous préserve de la mort éternelle. Un Dieu qui enlevait les péchés du monde, ce terme « enlever » a un double sens ici. Il signifie à la fois « prendre » et « enlever ». Car le Christ prend sur lui nos péchés pour les expier à notre place, et c'est lui aussi qui nous les enlève de notre âme, qui nous purifie de notre péché. Et ainsi, il nous rétablit dans la paix avec Dieu. Il y a ensuite le rite de la paix que l'on trouve aux messes solennelles. Donc le prêtre commence à réciter la première prière de préparation à la consécration, ce qui paraît aujourd'hui cela. Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à vos apôtres, c'est la paix que je vous laisse en héritage, c'est ma paix que je vous donne. Donc le prêtre récite cette prière et après donc donne la paix au diacre et au sous-diacre qui va la porter à tout le clergé. On trouve cette prière dans les missels à partir de l'an 900. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il y a là un double sens. Dieu nous laisse sa paix, donc c'est cette paix du cœur qui est délivrée du péché. Paix que l'on peut connaître ici-bas, mais qui reste imparfaite et qui peut être troublée. Je vous donne ma paix, à ce moment-là, il s'agit de la paix parfaite, le bonheur du ciel. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Le prêtre dit cette prière, c'est pour ça qu'il y a mes péchés, et il reconnaît ses propres fautes. Et on peut le noter, chaque fois que le prêtre parle de lui-même, il parle de lui avec beaucoup d'humilité, comme d'un pécheur. À l'offertoire, il avait dit, « Moi, votre indigne serviteur, je vous offre pour mes innombrables péchés et manquements. » Après la communion, il dira, « Afin qu'il ne demeure pas en moi la tache de mes crimes. Et quand il parle des fidèles, il en parle toujours avec beaucoup de respect. Nous, votre famille, ou à un autre endroit, nous, vos serviteurs et votre peuple saint. Car le prêtre a conscience de son indignité et de sa grande responsabilité. Si le peuple de Dieu n'est pas assez saint, c'est parce que lui-même ne l'est pas suffisamment. On le voit chez les saints prêtres, comme le saint curé d'Ars, cette grande conscience de leurs défauts, lui qui voulait pleurer sa pauvre vie dans la vie religieuse, dans un cloître. Et le prêtre, pour obtenir la paix de Dieu pour tous les fidèles, ne compte pas sur lui-même, sur ses mérites, mais sur ceux de toute l'Église. Il demande que l'Église soit rassemblée dans le ciel, donc le bain du ciel pour tous, mais aussi sur la terre. Après cela, le prêtre donc donne le baiser de paix et au diacre. Il embrasse l'autel, puis il y a le baiser de paix qui est transmis au clergé. En embrassant l'autel, le prêtre s'unit au Christ, et dans le Christ, il est uni aux autres chrétiens. Il y a donc le baiser de paix qui descend de l'autel du Christ et qui s'étend partout. Jusqu'au XIe-XIIe siècle, le baiser de paix se donnait aussi aux fidèles. Et cela se faisait non pas par une accolade, mais par un baiser. Et c'est la raison pour laquelle les hommes dans les églises étaient séparés des femmes. Un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. Avec le temps, cette distinction s'est perdue, ça s'est mélangé. Et pour que le baiser de paix ne soit pas ambigu, eh bien, il a été supprimé. En certains endroits, le prêtre, plutôt que d'embrasser donc l'autel, embrassait parfois donc l'hostie consacrée ou le calice, mais il y a toujours donc ce symbolisme de la paix qui descend du Christ sur tous les fidèles. Et ce rite indique la charité qui doit unir tous ceux qui vont s'unir à Jésus-Christ par la communion. C'est ce que dit saint Jean. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son prochain, celui-là est un menteur. Et saint Paul dit, quand tu apportes ton offrande à l'autel, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, va, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. Reviens ensuite apporter ton offrande. Donc cette nécessité de cette charité, de cette paix entre tous les fidèles pour pouvoir participer au saint sacrifice de la messe, ne pas garder de haine et de rancune en nous. Il y a ensuite deux oraisons préparatoires à la communion que récite le prêtre. Avant le Xe siècle, il n'y avait pas de ces prières, on ne les trouvait pas. Mais les fidèles avaient la coutume de prier, de se préparer à la communion. Et certains prêtres ont voulu, eux aussi, se préparer à la communion. Et on dit, de manière privée, certaines prières. Alors, ces prières se sont multipliées en certains endroits. Et depuis le XIIe siècle, eh bien, l'Église n'a gardé que deux prières que nous avons ici. Le prêtre les récite donc les mains jointes en étant incliné. La première s'adresse à Jésus-Christ qui a vivifié le monde par sa mort, selon la volonté de toute la Trinité. Et on demande eh bien, de faire que cette communion libère du péché, de tout mal, et nous fasse adhérer au commandement de Dieu, c'est-à-dire vivre saintement selon le Christ, de façon à n'être jamais séparés de Jésus-Christ. Et rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ si ce n'est le péché, c'est-à-dire la désobéissance au commandement de Dieu. La seconde prière, le prêtre reconnaît ici encore son indignité de recevoir le corps du Christ, et bien de se rappeler cela, car personne n'est digne de communier. Et malgré tout, cette conscience de son indignité ne doit pas nous éloigner de la Sainte Eucharistie, pourvu que nous soyons en état de grâce. Car l'Eucharistie n'est pas une récompense, mais un remède pour le corps et l'âme. Remède qui nous aide à ne pas tomber dans le péché. C'est ce que dit très bien cette prière. Que cette communion me sert de sauvegarde et de remède pour l'âme et le corps. Et on voit ça déjà dès les premiers siècles de l'Église, notamment chez saint Cyprien. Vous savez que dans les premiers siècles, les pénitences pour les péchés étaient très lourdes, surtout pour les péchés graves, pénitences publiques qui duraient plusieurs années. Et on n'avait plus le droit de communier, ni même d'assister à la seconde partie de la messe. Et en temps de persécution, les évêques relevaient ou abrégeaient ces pénitences pour permettre à tous les fidèles de recevoir les secours de la communion pour être fort face aux persécutions. Après cela, le prêtre va communier à l'hostie, qui génuflecte, dit « Je prendrai le pain du ciel et j'invoquerai le nom du Seigneur ». Il se frappe trois fois la poitrine en disant « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie ». Ce sont les paroles du centurion dans l'Évangile, qui demandait la guérison de son serviteur et qui se trouvait indigne de recevoir Jésus-Christ dans sa maison. Là encore, le prêtre confesse son indignité. Nous sommes loin de l'esprit janséniste qui éloignait les âmes de la communion en exigeant une pureté de cœur parfaite. Là encore, cette idée de la communion qui est un remède. Et donc, après avoir demandé à Dieu de guérir son âme, le prêtre communie en disant « Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle, ainsi soit-il. » Et il fait le signe de croix avec l'hostie pour rappeler que cette hostie, eh bien, c'est le corps immolé de Jésus-Christ sur la croix. Et il reste en silence pour se recueillir un peu de temps, uniquement le temps de consommer la grande hostie. Après cela, et donc il va communier au calice, il découvre le calice, récite la prière « Que rendrai-je au Seigneur ?» Vous l'avez ici. Et il purifie la patène, donc toutes les parcelles d'hostie, il les met dans le calice. S'il en reste sur le corporal, il passe la patène sur le corporal pour ramasser éventuellement toutes les parcelles d'hostie qui resteraient sur le corporal, et les met à nouveau dans le calice, pour être sûr que, eh bien, aucun fragment du corps de notre Seigneur ne se perde. Donc il y a là beaucoup de marques de respect envers les saintes espèces. Et le prêtre dit, eh bien, comment est-ce que je rendrai grâce à Dieu pour tous ses bienfaits ? Célébrer la messe, monter à l'autel, consacrer, recevoir le corps de Jésus-Christ. Eh bien, pour exprimer sa reconnaissance, le prêtre dit, eh bien, comment à Jésus-Christ en recevant le précieux sang, afin de s'offrir avec lui en sacrifice et louer Dieu. Et c'est ainsi, donc, par la communion, qu'il sera sauvé de ses ennemis, donc du péché et des tentations. Car notre secours, notre force est dans la communion. Après la communion du prêtre, eh bien, vient celle des fidèles. La communion du prêtre est absolument nécessaire pour la messe. Il faut que le prêtre communie au corps et au sang. À tel point d'ailleurs que si par accident, une erreur dans les burettes, eh bien, le prêtre avait consacré entre guillemets de l'eau, s'il y avait eu deux burettes d'eau par exemple, eh bien, il faudrait recommencer les deux rites de la consécration pour que la messe soit parfaite. Parce qu'il faut cette communion, cette consécration, cette communion des deux espèces. Et donc l'Église a toujours recommandé aux fidèles de communier à ce moment-là de la messe. C'est ce que saint Charles de Borromée déjà conseillait à ses prêtres qui avaient pris l'habitude de donner la communion en dehors de la messe, sous l'influence sans doute déjà du jansénisme. Et cela se fera sentir assez longtemps. Et si les fidèles communient, il y a la récitation du Confiteor avant la communion, comme nous le faisons. Alors pourquoi ce Confiteor qui vient doubler le « Je confesse à Dieu » déjà récité au début de la messe ? Eh bien, sans doute par analogie avec la distribution de la communion en dehors de la messe. Car il faut dire, à ce moment-là, le « Je confesse à Dieu ». Donc on trouve l'usage de dire le Confiteor à ce moment depuis le XIIIe siècle. Le pape Jean XXIII l'a supprimé en 1960, mais nous l'avons conservé. Le prêtre ensuite donne l'absolution, le pardon à la fin du Confiteor, et se retourne en tenant une hostie sur le ciboire, et dit « Etchenius Dei, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Et les fidèles disent « Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. » Notons-le qui enlève les péchés du monde, parce que la communion a un effet réel pour effacer nos péchés véniels. Si nous le regrettons sincèrement, et c'est le but du Confiteor, eh bien, par la communion, nous pouvons obtenir le pardon de défauts véniels, pourvu bien sûr que nous soyons en état de grâce. Pour la petite histoire, à une certaine époque, notamment à Venise, on a vu, quand il n'y avait que des religieuses ou que des femmes qui assistaient à la messe, eh bien on disait non pas Dominum sum dignus, mais Dominum sum digna, au féminin. Mais le pape Saint-Pie V donc, a dit qu'il ne fallait rien changer au missel, et donc l'usage a disparu. Comme quoi la féminisation des noms a commencé il y a longtemps. Et en donnant la communion, le prêtre fait le signe de croix sur le ciboire pour indiquer le rapport qui existe entre la communion et le sacrifice de la croix. Il dit que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle, ainsi soit-il. La communion est un gage, un signe, eh bien, de notre salut éternel. Alors, comment résumer ces rites de communion dans la messe traditionnelle ? Eh bien, il s'agit uniquement d'un développement du pater. À l'origine, il y avait le Notre Père, qui a été ensuite explicité par un certain nombre de prières. Le Sed Liberano Samalo a été développé, notamment avec la notion de paix qui nous est donnée par la délivrance du péché et cette amitié avec Dieu. Paix aussi qui nous fait frères. Tous les hommes sont frères en Jésus-Christ. Voyons maintenant la communion dans le nouveau rite. Si on prend les textes de la communion, du rite de communion, on peut trouver assez peu de différences en apparence. Il y en a quelques-unes, mais dans les grandes lignes, cela semble quand même assez cohérent. En revanche, quand on prend la présentation générale du missel romain, qui explique le sens, là, on est effrayé. Parce que si les apparences sont préservées, le sens général est totalement modifié. Autant auparavant on a insisté donc sur la paix, le pardon des péchés, la libération du mal, autant ici on mettra l'accent sur le repas, le banquet pascal. Et tous ces rites ne sont vus uniquement qu'en vue du repas du Seigneur. Ce n'est pas faux, je dirais. C'est vrai que quand on communie, on participe au repas du Seigneur. Mais ce n'est pas l'aspect essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la participation au Christ, au sacrifice du Christ immolé. Là, eh bien, il y a ce glissement, un déplacement d'accent, mais qui change beaucoup de choses. Donc, il y a maintenant trois rites. Tout d'abord, l'oraison dominicale, le rite de la paix et la fraction du pain. Ce sont les rites préparatoires à la communion, et vient ensuite la communion du prêtre et des fidèles ensemble. C'est ce que dit la présentation générale du missel romain au numéro 56, qui commence par ces mots: puisque la célébration eucharistique est le banquet pascal, notons donc ce mot banquet pascal déjà, et vient l'oraison dominicale. On y demande le pain quotidien qui est donné aux chrétiens, principalement dans le corps du Christ. Le pater est chanté désormais par toute l'assemblée, pour bien marquer le caractère communautaire, qui est encore renforcé par l'introduction au Notre Père. Il y a maintenant donc deux introductions possibles. Dans la seconde, on dit, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur, du Sauveur. Donc cet aspect d'union, de communauté. Pour l'oraison dominicale, eh bien, l'accent est mis sur l'aspect du repas. Donc il est dit, on y demande le pain quotidien. Donc, parmi toutes les demandes du pater, c'est celle-là qui est mise en avance. Les autres, elles, sont passées sous silence, alors qu'elles étaient la conséquence de la consécration. Notons aussi la suppression des demandes d'aide auprès des Notre-Dame et des saints, sans doute pour plaire aux protestants. Et la présentation rappelle aussi donc cette demande d'être libéré du mal. Mais par ces mots, l'embolisme, donc la conclusion du Notre Père, qui développe la dernière demande de l'oraison dominicale, demande pour toute la communauté des fidèles la libération du mal. Donc on demande la libération d'un mal communautaire. Et on ne précise plus d'un mal présent, passé, présent, et à venir. Alors, quel est ce mal qui frappe la communauté? Eh bien, on est assez tenté d'y voir, eh bien, un malheur temporel. puisqu'on demande, on demande encore dans cette prière, rassure-nous devant les épreuves en cette vie d'ici-bas, où nous avons le bon, où nous espérons le bonheur que tu promets. Alors, quand on dit où nous espérons le bonheur que tu promets, est-ce que nous espérons ce bonheur en cette vie ou dans l'autre vie? Donc là encore, cette ambiguïté. Et on y retrouve, eh bien, une vision eschatologique, vers la, cette idée de Théière de Chardin, on tend tous vers le point oméga, le point christique où tout se rassemblera. Donc c'est en fait, il faut libérer ce monde du mal, donc différents mots comme le racisme, etc. La pauvreté, le tiers-monde, bon, tout ce que l'on connaît. Je vous lis le commentaire de Roger Bérodi dans La Maison Dieu. Le but de l'intervention divine ainsi sollicitée n'est pas seulement la libération présente du péché et la délivrance des épreuves, car l'embolisme rappelle que ce double affranchissement dispose les hommes à l'avènement eschatologique, donc avènement à la fin des temps, de Jésus-Christ, que nous attendons et que nous préparons à travers nos luttes quotidiennes. Ces mots de lutte quotidienne, ça fait clairement penser à une théologie de la libération. Donc on lutte pour un monde meilleur, pour un monde plus juste, dans lequel eh bien, se réalisera cette communauté de tous les hommes, et qui fera finalement le Christ présent. Nous sommes tous unis et le Christ est présent au milieu de nous. Donc il y a vraiment là un esprit très marqué, qui va se préciser encore par la suite. Donc après la récitation du Pater, vient le rite de la paix, qui est clairement distingué du Pater dans la présentation du missel. Donc la prière qui précédait traditionnellement le rite de la paix a été avancée donc juste après le Pater. Donc elle n'a pas été changée, si ce n'est qu'elle est passée du première personne du singulier, du « je » au « nous », parce qu'elle est dite au nom de tous les fidèles désormais. Et ce qui change ici, c'est que le prêtre donne directement la paix au servant sans embrasser l'autel. Et les fidèles se donnent immédiatement la paix entre eux. Cela ne peut paraître qu'un détail, mais cela a son importance. Car traditionnellement, eh bien, c'est en Jésus-Christ, à partir de l'autel, que la paix descendait. Tous les hommes étaient un en Jésus-Christ. Ici, c'est les hommes qui s'unissent entre eux. On se donne la paix mutuellement l'un à l'autre. Et cette paix ne descend plus de l'autel. Et en fait, eh bien, avant, les hommes s'unissaient à Jésus-Christ et en Jésus-Christ, ils étaient un. Désormais, c'est le mouvement inverse. Les hommes s'unissent entre eux. Et là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce qu'explique le nouveau missel. Donc, il y a une totale inversion de la perspective. C'est vraiment, tout est dans l'assemblée. Je vous lis encore le commentaire de Roger Bérodi. Le rite de la paix dit que dans le Christ, le cœur de l'homme est changé, de telle sorte que les barrières qui malheureusement se dressent encore entre les hommes sont dénoncées, et que la distance qui les sépare les uns des autres est déjà abolie par le projet commun de réconciliation universelle, etc. Si le geste de la paix a une telle dimension prophétique, etc. Donc, on voit ce rite de la paix qui abolit toutes les différences entre les hommes, de peuples, de races, de nations. Il faut réaliser cette grande unité de tous les hommes, qui a une dimension prophétique. Et, notons-le, dans cette paix, notre Seigneur n'est pas le fondement de cette paix. Il est au contraire présent parce qu'il y a cette paix entre les hommes, ce salut. Et on trouve déjà là tout l'esprit d'assise. Le troisième rite de la préparation à la communion, c'est la fraction du pain. La présentation du missel dit... Donc, ce rite de la fraction du pain signifie que nous qui sommes nombreux en communion à l'unique pain de la vie qui est le Christ, nous devenons un seul corps. Donc là encore, nous sommes nombreux, nous devenons un seul corps. Cette communion, c'est l'union des fidèles, des hommes entre eux. Quant à l'union à Dieu et au Christ, eh bien, elle est tout à fait accessoire. Si on va voir un peu plus loin, donc au numéro 283, eh bien, il est dit « La vérité du signe demande que la matière de la célébration eucharistique apparaisse vraiment comme une nourriture. » Donc là, c'est l'aspect repas qui est mis en avant. « Et il convient que le pain eucharistique soit rompu en plusieurs morceaux et donné aux fidèles. » Le geste de la fraction du pain, qui désignait à lui seul l'Eucharistie à l'âge apostolique, manifestera plus ouvertement la valeur et l'importance du signe de l'unité de tous en un seul pain, et le signe de la charité, du fait qu'un seul pain est partagé entre frères. On voit encore, c'est l'union entre les frères qui est première dans la consécration, dans la communion. Alors, pour des raisons pratiques, ils ont laissé cependant l'usage des petites hosties. Mais on dit qu'il serait mieux, s'il est possible, eh bien, que le prêtre fractionne la grande hostie et donne des parcelles aux fidèles. Et cette fraction du pain, on lui donne une grande importance, puisque eh bien, le prêtre, cela peut prendre du temps, surtout si on fractionne une très grande hostie, comme on a vu par exemple le pape à Sainte-Anne d'Auray, qui a consacré une aussi grande comme ça. C'est impressionnant. Donc si ce rite prend du temps, à ce moment-là, on reprend la nous dei autant de fois qu'il le faut pour que le rite de la fraction du pain ait lieu. Et donc le prêtre ensuite mélangera un fragment de l'hostie dans le calice. On voit donc ce rite de la fraction du pain, qui dans l'ancien rite était annexe, qui n'avait pas une importance essentielle, devient là absolument central. Et ce rite indique l'aspect repas de la messe. Donc, par cela, on déplace encore l'accent et on fait de la messe un repas. Voyons la communion. Donc il y a là encore une préparation privée du prêtre à la messe, à voix basse. Il dit donc une des deux prières que l'on a ici, donc, qui sont un résumé des prières traditionnelles. Après cela, le prêtre montre le pain eucharistique qu'ils vont recevoir en communion. Donc prêtre et fidèle sont communis ensemble. Et le prêtre dit en montrant l'hostie, « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Ce qui est mis en premier encore, c'est l'aspect repas, et non l'aspect sacrifice. Et dans la traduction française, on voit qu'il enlève le péché du monde. Donc c'est toujours cette notion de péché général, du mal dans l'humanité, de l'injustice, et non les péchés de chaque personne, nos péchés personnels. Et tous disent invocation, Seigneur, je ne suis pas digne. Donc le prêtre ensuite communie au calice, à l'hostie, puis au calice. La prière, donc, que rendrai-je au Seigneur, est supprimée. La communion des fidèles, maintenant, eh bien, il est dit, dans la présentation générale du missel, il est préférable de donner des hosties consacrées à cette messe. Et même que les fidèles communient au calice dans les cas prévus, afin que, entre guillemets, je cite, la communion apparaisse mieux comme la participation au sacrifice célébré actuellement. Donc ici on trouve le mot sacrifice, donc on peut se dire une notion traditionnelle, peut-être. Mais si on se rappelle de l'offertoire, enfin la présentation des dons, le sacrifice c'était quoi? C'était celui du pain et du vin. Donc les hommes qui offraient le fruit de la vigne, etc. Vous connaissez la formule par cœur. Donc, eh bien, ce sacrifice, finalement, c'est quoi? C'est le partage. Chacun amène ses offrandes. Il y a d'ailleurs un rite de procession dans l'offertoire, maintenant, qui est prévu. On amène du pain et du vin, et on partage. Alors, ça peut être très bien cela, le sacrifice. Pendant la communion des fidèles, on chante le chant de communion, je cite, pour exprimer l'union spirituelle entre les communiants, par l'unité des voix. Donc là encore, c'est l'union des fidèles entre eux. Voilà. Donc, Il commence le chant de communion quand le prêtre se communie et se prolonge, etc. Donc là encore, cette identité entre la communion des prêtres et des fidèles. Bon, quelques notes sur la communion sur les deux espèces. Dans le nouveau rite, il est prévu la communion sur les deux espèces de différentes manières, soit avec des chalumeaux, donc une espèce de paille, soit en trempant l'hostie dans le précieux sang, soit à ce moment-là, chacun boit au calice. Il y a donc 14 points où c'est possible, mais dans le 14e point, c'est tellement large qu'on peut quasiment le faire toujours. Et il est dit dans la présentation du missel, au numéro 240, « La Sainte Communion réalise plus pleinement sa forme de signe lorsqu'elle se fait sous les deux espèces, car sous cette forme, le signe du banquet eucharistique est mis plus pleinement en lumière. » Vous voyez, l'expression « banquet eucharistique ». Et on peut aussi noter la relation qui est faite. On note aussi, je cite toujours le même passage, plus clairement, la relation entre le banquet eucharistique et le banquet eschatologique dans le royaume du Père. Donc c'est à la fin des temps, soit le ciel, soit dans une vision plus de la théologie de la libération, donc quand tous les hommes seront amis, unis entre eux, où les injustices seront enfin bannies de ce monde, eh bien il y aura ce banquet eschatologique de tous les hommes. Quels sont les ministres de la communion aussi? Donc, quels sont ceux qui peuvent distribuer la communion? Eh bien là, pour le savoir, il faut aller voir dans plusieurs endroits. Il est dit tout d'abord que tous les ministères inférieurs à ceux du sous-diacre peuvent être exercés par des laïcs. Ceux qui s'accomplissent hors du sanctuaire peuvent être confiés à des femmes. Par ailleurs, il est dit que l'acolyte, donc le servant de messe, et le ministre extraordinaire de la communion, il peut donc distribuer la communion. Donc un acolyte peut donner la communion, et si ça se passe en dehors du sanctuaire, bien même une dame peut le donner. Donc finalement, tout le monde peut donner la communion. Quant aux servantes de messe, si c'était interdit, c'est parce que, eh bien, jusqu'à maintenant, c'était considéré dans le sanctuaire. Donc, enfin, c'était qu'un détail de lieu, quoi, qu'on soit en dehors ou hors du sanctuaire. C'est finalement une évolution normale d'aujourd'hui d'avoir des servantes de messe, comme on voit partout, et comme Rome l'a admis. Voilà donc pour ce qui est de la communion selon le nouveau rite. On voit que l'esprit est totalement changé. On ne se unit plus au Christ pour recevoir le pardon, les effets de la grâce, mais on s'unit entre nous. C'est une communion. On s'unit avec nos frères présents dans l'assemblée. Voyons rapidement, maintenant il est déjà tard, les rites de conclusion. Tout d'abord, dans l'ancien rite, il y a les ablutions, première ablution. Après avoir refermé le tabernacle, le prêtre incline le calice sur le corporal et le servant y verse du vin et le prêtre dit la prière, ce que notre bouche a reçu, etc. C'est donc en haut de la page 11. Le but de ce rite est que aucune des espèces eucharistiques ne se perde. Et le fait de verser des gouttes de vin dans le calice, eh bien, dissout les gouttes du précieux sang. Comme ça, on est sûr qu'il ne reste rien des saintes espèces. Et le prêtre dit cette prière en silence pour eh bien, favoriser son recueillement. Et on rappelle que la communion est faite en vue de la vie éternelle. La seconde ablution, elle, a lieu à l'angle droit de l'autel. Le savant verse d'abord le vin, puis l'eau sur les doigts du prêtre, pour détacher des doigts du prêtre toutes les parcelles d'hostie qui auraient pu y être. Et le prêtre demande eh bien, que ses entrailles, donc toutes ses affections, soient désormais attachées à Jésus-Christ. Donc il y ait cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Du XIIIe au XVIIe siècle, il était d'usage de donner aussi aux fidèles du vin ou de l'eau à ceux qui venaient de communier. Le but était alors de détacher les parcelles d'hostie qui restaient accrochées dans la bouche. Il y a un reste de cela, donc dans la messe d'ordination, les nouveaux prêtres, après la communion, eh bien, on leur tend un calice qui contient du vin. Et donc, ils boivent chacun leur tour à ce calice. Donc c'est pour purifier la bouche, parce que, bon, moi maintenant, mais quand on communiait avec le pain fermenté, il arrivait souvent donc que des parcelles d'hostie restaient accrochées au palais, et donc pour aider à détacher cela, on donnait soit de l'eau, soit du vin. Après cela vient l'action de grâce, donc le chant de communion d'abord. Après les ablutions, le prêtre dit le chant de communion. À la messe chantée, ce chant est dit pendant la communion des fidèles. Et auparavant, il était antiphoné, c'est-à-dire qu'il y avait donc le chant de communion qui était repris, alterné avec les versets d'un psaume, pendant toute la communion. Saint Augustin parle déjà de ce rite. Mais à partir du XIIe siècle, eh bien, les liturgistes ont vu dans le chant de communion une prière d'action de grâce. Voilà pourquoi elle est dite désormais par le prêtre. Vient ensuite l'oraison, la post-communion, qui est introduite par le Dominus Vobiscum. Et dans cette oraison, le prêtre remercie Dieu du bonheur ineffable d'avoir participé au saint mystère et demande à Dieu de conserver en lui les fruits de la messe. Vient ensuite l'ite missa est, allez, la messe est dite, et avant de congédier le peuple, eh bien, le prêtre le salue par les mots Dominus Vobiscum. Et dans toutes les liturgies, on trouve eh bien, ce rite de renvoi des fidèles. Et ça marquait donc vraiment la fin de la messe. Par la suite, il y a eu des additions. Tout d'abord, donc la prière du Placeat, donc le prêtre agréé Trinité Sainte, l'hommage de votre serviteur, et la bénédiction. Après avoir fait cela, la messe était finie et le prêtre se déshabillait à l'autel. Et il avait la coutume de faire une prière d'action de grâce, qui comprenait notamment la prière du Placeat. Et puis, eh bien, cette prière a été petit à petit dite à voix haute, et c'est ainsi qu'elle est rentrée dans le rite. Le prêtre y demande eh bien, que cet hommage, cette messe, soit un sacrifice agréable, que ce sacrifice soit propitiatoire pour lui et pour les fidèles. Et les fidèles ont aussi désiré, après la messe, recevoir la bénédiction du prêtre. On voit encore cela avec les servants de messe. Voilà pourquoi le prêtre a donné sa bénédiction après avoir dit la messe à cet endroit-là. Et avec le temps, eh bien, cela s'est encore inséré dans le rite lui-même. Dans le rite grec, eh bien, on voit cette bénédiction juste avant le rite de renvoi. Et plusieurs liturgistes du Moyen Âge y ont vu l'image de la bénédiction que le Christ avait donnée à ses apôtres juste avant de remonter au ciel lors de son ascension. Quant au dernier évangile, il est entré dans le rite de la messe de la même manière, vers le XIIIe siècle. Le prêtre récitait à voix basse le prologue de saint Jean en action de grâce. Puis, pour en faire bénéficier les fidèles, eh bien, il a fini par le dire à voix haute, et c'est encore entré dans le rite. Et ce prologue de saint Jean résume toute l'œuvre du Fils de Dieu, qui s'est incarné pour eh bien, notre salut. Et tout ce qui est dit là, eh bien, s'est réalisé à la messe. Et le peuple, eh bien, rend grâce à Dieu de tout cela par les mots Deo gratias. Donc c'est maintenant la fin de la messe. Donc, dans le nouveau rite, elles sont désormais faites à la crédence ou au coin de l'autel. Parfois aussi, elles peuvent être reportées après la messe. Et il y a là un moindre respect pour les saintes espèces. Il y a la suppression des prières aussi, que l'on faisait à ce moment-là, qui rappelait que la communion était un remède pour la vie éternelle. Et cela n'aurait guère eu de sens dans la perspective du banquet pascal, ou du repas du Seigneur. La prière de Quodore Supsimus, le prêtre peut encore la dire quand il essuie la patène sur le calice, mais c'est facultatif. Quant à la bénédiction, donc elle précède désormais le renvoi, et ensuite, il y a donc le renvoi des fidèles. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, donc, pour l'explication de la messe. Alors, pour porter un jugement plus général sur la messe, cela prendrait bien du temps, il est déjà tard. Donc, voyons une très rapide conclusion. Au terme de cette étude, eh bien, il nous est apparu que la messe a subi beaucoup de changements avec le nouveau rite. tant dans les formules, mais surtout dans la signification des rites. Beaucoup de formules ont été conservées, mais leur signification a été changée. Et c'est cela le plus grave. Alors, eh bien, la question qui se pose, quelle conduite tenir vis-à-vis de ce rite? Eh bien, nous en parlerons la prochaine fois. Concernant les rites de communion, on peut noter un changement très important de signification. La communion n'est plus l'union à la victime, au Christ, mais un repas, un banquet pascal qui réalise la communion, l'union de tous les membres présents. Cette communion se réalise par le fait que l'on participe à un même repas, à un même pain eucharistique, qui est le corps du Christ. Quant à cette présence du corps du Christ, quelle est-elle? La chose n'est plus aussi claire qu'avant. Avant, dans l'Ancien, il était clair que c'était une présence réelle. Là, ça n'est pas nié, mais ça n'est pas affirmé. Et même le terme de transsubstantiation, que le Concile de Trente a utilisé et a défini pour traduire la consécration, ne se trouve en aucun endroit dans la présentation générale du missel romain. Dans le nouveau rite, eh bien, on passe de l'union des fidèles au Christ par la communion à l'union des fidèles entre eux par la participation à un même repas. La messe est finalement d'abord un repas. On s'assemble pour partager le même pain. Et ce partage est finalement un sacrifice. Et c'est exactement, j'irais, on retrouve la définition de la messe telle que le donnait l'article 7 dans sa première mouture. Il était tellement scandaleux qu'il a été revu donc plus tard, en 1970. La scène du Seigneur, autrement dit la messe, est une synaxe sacrée, c'est-à-dire le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi le rassemblement local de la Sainte Église réalise de façon éminente la promesse du Christ. Lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà la définition de la nouvelle messe, du moins la définition qui était donnée et qui a servi de base à cette messe que nous avons vue. Et on voit que cela correspond parfaitement à l'orientation générale des rites. Même si en aucun endroit il y a une négation formelle d'une vérité de foi. C'est très habile. On masque, on cache, mais il y a vraiment une orientation totalement différente. Voilà pourquoi on peut dire, eh bien, que cette messe est mauvaise. Et il y a un déplacement aussi du sommet de la messe. Le sommet n'est plus la consécration, c'est devenu la communion.